Vous écoutez RFI, il est 16h à Paris, 15h en temps universel. Et c'est l'heure du journal présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous. Dans l'actualité, les mandats d'arrêt lancés par la CPI contre trois personnalités du Moyen-Orient. Benjamin Netanyahou, son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas. Tous trois poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Israël proteste, son premier ministre se compare même au capitaine Dreyfus. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir tiré un missile intercontinental sur son territoire, ce qui serait une première depuis le début du conflit. Encore beaucoup de points de blocage, à commencer par la finance climatique avant la fin de la conférence climat de l'ONU demain soir en Azerbaïdjan. En France, les agriculteurs en colère manifestent sous la neige. Le port de Bordeaux, 7e port de France, est actuellement bloqué par les manifestants. Les protagonistes de la guerre Israël-Hamas recherchés par la CPI, la Cour pénale internationale, a donc émis des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif. Tous trois sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La Cour, qui comprend 123 pays membres, compte sur la police de ces pays pour arrêter les trois accusés. François Dubuisson est professeur de droit international à l'Université de Bruxelles. Son analyse recueillie par Théo Renaudon.
Ça va en tout cas restreindre leur capacité de mobilité parce qu'il y aura un risque s'ils mettent le pied dans un État parti comme c'est le cas de la France par exemple, d'être arrêtés en application du mandat d'arrêt. Alors il pourrait y avoir des questions juridiques assez complexes qui pourraient se poser s'agissant de Netanyahou, Premier ministre, s'il bénéficie encore d'une immunité qui empêcherait qu'on l'arrête. Donc il pourrait y avoir des discussions qu'on a déjà eues avec d'autres cas devant la Cour pénale internationale quand il s'agissait de viser des chefs d'État. Mais sur le principe, il y a une obligation d'arrestation et puis de remise à la Cour pénale internationale.
Et j'ajoute que Benjamin Netanyahou a qualifié d'antisémite la décision de la Cour pénale internationale. Il s'estime victime d'un nouveau procès Dreyfus. Les Palestiniens font état de dizaines de morts aujourd'hui dans la bande de Gaza. Les frappes israéliennes auraient tué 22 personnes dans un quartier de Gazaville, dans le nord du territoire. Dans le même temps, l'émissaire américain recherche les moyens de conclure une trêve. Il est depuis hier soir en Israël. Dans la guerre Russie-Ukraine, une première en presque 3 ans de conflit pour la première fois. Et selon les Ukrainiens, les Russes ont tiré un missile balistique intercontinental. Ce missile a une portée de plusieurs milliers de kilomètres. Il aurait servi pour attaquer la ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine. C'est un vecteur de la dissuasion nucléaire russe qui peut aussi être équipé d'une charge conventionnelle. Les précisions de Romain Lemaresquier.
C'est la première fois qu'une telle arme est utilisée dans un conflit. Le message envoyé par Moscou est donc à prendre au sérieux, même si ce missile de la classe des ICBM, c'est-à-dire des missiles balistiques intercontinentaux, n'a semble-t-il fait aucun dégât à Dnipro, la ville ciblée. Ce type de missile fait partie du dispositif de dissuasion nucléaire russe, d'une portée de près de 6000 km à une vitesse pouvant atteindre Mach 20, c'est-à-dire près de 25000 km/h. Ce missile peut être équipé de 6 ogives nucléaires, mais aussi de charges conventionnelles. Selon les premières analyses, il semblerait que le missile tiré ce jeudi matin depuis une base d'essai située à plus de 1000 km de la frontière ukrainienne, dans le sud-ouest de la Russie, n'était équipé d'aucune charge. Il s'agirait donc d'un avertissement au moment où l'Ukraine commence à employer des armes occidentales de longue portée en territoire russe. Si les autorités ukrainiennes confirment cette information, du côté de Moscou, c'est le mutisme qui prévaut pour l'instant. « Je n'ai rien à dire sur ce thème », a tout juste déclaré le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, devant des journalistes lors d'un briefing ce jeudi matin.
Et en Occident, sinon, ne cache pas son inquiétude à l'image de Londres qui dénonce un tir irresponsable et qui marquerait, je cite toujours, une escalade. Les points de blocage restent nombreux avant la fin théorique de la conférence climat de l'ONU demain soir en Azerbaïdjan. On ne sait toujours pas combien les Européens sont prêts à mettre sur la table pour aider les pays en développement. Actuellement, ces derniers reçoivent des pays développés une centaine de milliards de dollars pour qu'ils s'adaptent au changement climatique et investissent dans les nouvelles énergies. La COP29 doit fixer un nouvel objectif d'aide jusqu'à 2030 ou bien 2035. La nouvelle Commission européenne portée sur les fonts baptismaux, elle fera l'objet la semaine prochaine d'un vote formel d'approbation des eurodéputés. Au terme de difficiles tractations, la droite, le centre et les sociodémocrates ont finalement trouvé un accord hier soir au Parlement européen. Tous ont approuvé la composition de la nouvelle équipe, toujours présidée par Ursula von der Leyen. Correspondance à Bruxelles de Pierre Benazé.
Parmi les candidats encore en suspens, le Hongrois Oliver Vorey n'est finalement pas recalé, mais son portefeuille est vidé des compétences sur lesquelles il n'a pas convaincu lors de son audition. Ensuite, deux présidents qui étaient sur la sellette. D'abord, l'Italien Raffaele Fitto, dont les socialistes ne voulaient pas, car il appartient à Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, classé à l'extrême droite. Ensuite, l'Espagnol Teresa Ribera, qui était menacée par la droite pour sa gestion de l'environnement avant les inondations de Valence. Ils sauvent tous les deux leur portefeuille, une sorte de donnant-donnant, droite-gauche. Il y a surtout eu un accord global ce jeudi entre les trois parties de la coalition politique. Ils ont renouvelé par écrit leur engagement à travailler ensemble pendant dans les 5 ans à venir, un accord de coopération en 9 points sur les défis essentiels pour l'Europe. Les bisbilles entre les groupes politiques ont privé le Parlement européen de sa capacité à recomposer le collège des commissaires, alors que c'est le moment où il a le plus de pouvoir. Surtout, ce retard donne l'image d'une Europe qui a du mal à prendre des décisions à un moment où les défis s'accumulent. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Nous allons maintenant au Nicaragua où le président Daniel Ortega a présenté une réforme constitutionnelle en cas de vote au Parlement, ce qui est plus que probable. Cette réforme étendrait encore plus sa mainmise sur l'État et elle placerait son épouse Rosario Murillo au rang de coprésidente. Lila Olkinuara, bonjour.
Bonjour.
C'est une menace de plus pour ses opposants.
Une coprésidence à la tête de l'État pour un mandat qui passe de 5 à 6 ans, des restrictions pour la presse, la déchéance de nationalité pour les traîtres à la patrie. Avec cette réforme, Daniel Ortega et sa femme continuent d'étendre leur mainmise sur le Nicaragua. Le projet vise à réformer une centaine d'articles de la Constitution. Il prévoit notamment de mettre la coordination des organes législatifs, judiciaires et électoraux aux mains du couple Ortega-Murillo. Le président souhaite aussi créer une police de civils en soutien aux forces de l'ordre. Depuis 2018, des manifestations de l'opposition brutalement réprimées, la politique autoritaire de Daniel Ortega ne cesse de se durcir. Des centaines de journalistes, militants et religieux accusés d'avoir soutenu les protestations ont été emprisonnés avant d'être expulsés du pays et déchus de leur nationalité. Demain, l'Assemblée, contrôlée par le parti au pouvoir, doit se prononcer une première fois sur le texte. Son adoption ne laisse que peu de doutes. L'Organisation des États américains dénonce une agression ultime contre l'état de droit démocratique et la mise en place d'une forme de dictature conjugale.
Lila Olkinuara, merci à vous. En France, les agriculteurs en colère continuent de manifester, parfois avec la manière forte. La coordination rurale, le principal syndicat mobilisé sur le terrain, maintient son blocage du port de commerce de Bordeaux, qui est le 7e port de France. Et puis en déplacement dans le Pas-de-Calais, la ministre de l'Agriculture a de son côté promis de s'attaquer au sujet des pesticides interdits. Dans l'actualité économique, la justice américaine demande à Google de céder son navigateur Chrome. Déjà épinglé pour ses pratiques anticoncurrentielles, Google encourt une sanction qui serait historique. Explication d'Agnieszka Kumor.
Reconnu coupable de monopole dans la recherche en ligne, un marché qu'il domine à 90%, Google pourrait se voir imposer une série de mesures qui signeraient son démantèlement. Le département de la justice veut notamment que Google vende son navigateur Chrome. La filiale d'Alphabet pourrait aussi se voir interdire de signer des accords avec les fabricants de mobiles. Ces accords imposent l'utilisation par défaut du moteur de recherche de Google sur les smartphones. Les autorités américaines exigent par ailleurs d'autres aménagements, notamment l'obligation de dissocier le système d'exploitation Android du moteur de recherche et de la boutique d'applications Play Store. Ainsi, les procédures judiciaires lancées sous l'administration Trump et poursuivies sous Joe Biden pourraient chambouler le marché de la recherche en ligne, sauf si le président élu en décide autrement. En tout cas, si le juge retient les arguments du gouvernement, le procès pourrait se tenir en août prochain.
En France, une grève à la SNCF, pas de grande pagaille, mais des perturbations localisées. Cette grève, à l'appel de tous les syndicats du groupe, n'est pas suivie massivement. La CGT Cheminot, l'UNSA Ferroviaire, Sudrail et la CFDT réclament un moratoire sur le démantèlement sans licenciement de fret SNCF, l'opérateur public. Enfin, les trains français circulent même quand il neige. Le fond de l'air est devenu hivernal en France sous l'effet d'une tempête arrivée par l'ouest. Les premiers flocons sont tombés ce matin. Il neige également à Paris. Une cinquantaine de départements ont été placés en vigilance orange, neige, verglas et vent. Bientôt 16h10 ici à Paris, l'heure de VMDN. Avec vous, Jean-François Cadet, bonjour.
Bonjour et merci, c'était Gilles Moreau.